Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 89.5 FM de Radio Dio si vous nous rejoignez. Et c'est avec grand plaisir que nous retrouvons l'émission mensuelle du Grémos.
C'est avec un grand plaisir que aujourd'hui le Grémos reçoit ses amis et nous avons le plaisir d'accueillir Roland Fournel qui a composé un ouvrage sur les mines de Rive de Gé. Alors au micro Maurice Bedouin, à la technique Loïc, pour une bonne émission que nous allons passer ensemble. Et Roland Fournel, précisément, votre livre s'intitule comment ?
Bonjour, le livre s'appelle « Compagnie minière et mineurs du Gé » de 1750 à 1950.
Alors c'est un livre qui est inauguré par une préface de Georges Huguet, et qui est un universitaire stéphanois qui a beaucoup travaillé sur la vallée du Gé. Et vous avez édité alors ?
Alors c'est une coédition d'Actes Graphiques, un éditeur stéphanois connu, et de l'association ripagérienne de recherche historique, ARRH, à laquelle j'appartiens.
Voilà, alors donc, ce sont des sigles tout ça. Le Grémos, groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Et alors, ARRH, qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc on peut dire que c'est l'association d'histoire de Rive du Gé, mais son sigle c'est association ripagérienne de recherche historique. Donc c'est une association formée de 40 à 50 membres qui s'intéresse à l'histoire de local, au monde ouvrier, à l'histoire de Rive du Gé et de son canton en général.
Et vous êtes spécialisé pendant de nombreuses années, pendant combien, 4 ans, sur cette question de la mine ?
J'ai travaillé pendant 4 à 5 ans pour rechercher des archives, trouver un plan, et quand j'ai trouvé quelque chose qui me semblait intéressant, ben on a pu envisager une publication donc avec Actes Graphiques et l'association.
Donc en vérité, la connaissance des mines de Rive de Gé, du bassin, n'a pas commencé avec vous. Il y a déjà eu auparavant d'autres auteurs qui ont recherché les informations. Vous avez pu vous référer à qui alors ?
Oh, bien sûr, il y a eu de nombreux écrits sur les mines, hein. Il y a eu des livres, il y a eu de nombreux articles, et des livres anciens, des ingénieurs des mines, des ouvrages plus récents. Disons que j'ai toujours cherché le maximum de sources, mais j'ai toujours essayé de trouver les originaux, hein, c'est-à-dire de remonter afin d'avoir l'information la plus exacte et de contacter plusieurs sources pour savoir où se trouve la vérité, parce que parfois il y a des divergences de faits ou d'interprétations. Alors j'ai surtout contacté, disons, en dehors des publications connues, les archives départementales de la Loire, mais aussi les archives départementales du Rhône, et puis j'ai eu la chance d'avoir des documents, des archives nationales qui n'avaient pas été utilisées pour le moment, jusqu'à présent, à ma connaissance, dans l'histoire des mines de la Loire.
Alors, le bassin minier du Gé fait partie du bassin minier de la Loire, évidemment, un vaste bassin qui s'étend depuis Firminy jusqu'à Rive de Gé, même au-delà. Mais est-ce que on pourrait dire que ce bassin du Gé a une identité, des caractéristiques qui le différencient de celui de Saint-Étienne ?
Certainement, oui, c'est la même formation géologique, mais c'est les ingénieurs des mines qui, dès le début du 19e siècle, ont distingué les deux bassins miniers, pour des raisons que l'ingénieur Bonnier explique précisément en 1812, parce que à cette époque, la production du Gé était plus importante, ses équipements étaient plus importants, les puits étaient plus profonds, et surtout l'exportation du charbon était plus importante sur le Gé. On peut distinguer, disons, ce qui différencie essentiellement, si on veut être court, le gier du bassin minier de Saint-Étienne, hein, Saint-Étienne au sens avec toutes les communes alentours, c'est que c'était un bassin qui était plus actif dans une période, disons, au moins d'une cinquantaine d'années, entre, on peut penser, de 1780 à 1800, à la décennie 1830, hein, 1830-1840. Pourquoi? C'est un bassin qui était plus actif parce que c'est une région qui est plus proche de Lyon. Et on sent que dès le milieu du XVIIIe siècle, il y avait un besoin d'apporter du charbon à Lyon pour se substituer au charbon de bois et qui devenait de plus en plus rare et donc de plus en plus cher. Donc les Lyonnais ont beaucoup agi pour que l'exportation sur Lyon se fasse, et donc ce qui explique un peu le développement précoce du bassin du Gier.
Alors Roland, une question, est-ce que ce sont les mêmes couches de charbon qu'on trouve d'un côté à Saint-Étienne et de l'autre côté à Rive-de-Gier?
Non, ce n'est pas les mêmes couches, là je ne suis pas spécialiste en géologie. Les couches à Saint-Étienne sont plus nombreuses, hein, et dans le Gier on peut dire qu'il y a essentiellement trois couches de charbon. Et ce qui a lancé, qui a impulsé fortement la production, c'est autour de 1800 la découverte de ce qu'on appelait la grande couche, une couche qui faisait environ 8 mètres de puissance en moyenne, qui a à ce moment-là permis d'augmenter fortement la production dans le Gier, quoi.
Alors vous nous l'avez dit à l'instant, là, il y a antériorité de l'exploitation minière sur Rive-de-Gier, mais toutefois, il y a aussi exploitation minière dans la région de Roche-la-Molière, tout simplement parce que ce sont les lieux du Grand Saint-Quiquennat-Louillet où les couches remontent en surface et où il était relativement facile de retirer le charbon.
Alors au début, un peu avant la période pré-industrielle, on peut dire que ce qui est commun au Gier et à Saint-Étienne, c'est qu'on exploite effectivement sur les affleurements. Dans le Gier, c'était les coteaux, hein, on n'était pas en fond de vallée. C'était les coteaux, là où les couches sont plus minces. Mais c'est une exploitation, comme à Saint-Étienne, qui est fort ancienne. Beaucoup d'historiens disent que ça a démarré au XIVe siècle, peut-être même au XIIIe siècle. Mais c'était à l'époque des exploitations artisanales. Et le développement industriel, on peut dire, a commencé au milieu du XVIIIe, donc de façon sérieuse, au moment où on a commencé à délivrer des concessions minières à Rive-de-Gier, mais aussi à Saint-Chamond et à Roche-la-Molière, bien sûr.
On utilise un joli mot, c'est le mot de grattage. Hein, c'est très évocateur, ça. On prend un pic, on prend une pelle, et puis voilà, on retire quelques morceaux de charbon.
Oh, l'abattage du charbon a toujours été assez artisanal, hein, jusque... pendant la période que je connais à peu près, 1750 à 1850, à 1800 même plus loin, 80, l'abattage du charbon a toujours été fait avec des moyens très simples, un pic et des coins, donc et des masses. Mais ce qui caractérise cette période, le début d'exploitation minière, c'était que les puits étaient de faible profondeur, ou alors on travaillait avec des fendus, c'est-à-dire un accès directement sur le sans puits à partir de en creusant une colline en pente. Les moyens étaient assez sommaires, mais on descendait à faible profondeur. Et c'est à partir du début du 19e, autour de 1800, qu'on a commencé, en tout cas dans le Gier, à descendre bien plus profond, pas loin de 200 mètres environ.
Et alors dans l'imaginaire aussi, on a ces images de charbon qui s'enflamme et qui laisse apparaître en surface des fumées. On parle de la montagne de feu. À quoi cela correspond-il réellement?
Alors c'est un phénomène que je ne saurais pas décrire au plan physique, mais disons qu'on trouve souvent un phénomène naturel qui est dû aux éboulements, au fait qu'on déstabilise les massifs de charbon dans des zones où le charbon n'est pas très compact. Et il y a un phénomène qui est expliqué par les ingénieurs des mines où il se produit un échauffement et parfois le feu se déclare naturellement. Alors quelquefois c'est aussi des accidents, hein. C'est quand on utilisait bien sûr des lampes pour s'éclairer, Et quand il y avait aussi parfois des accidents. Et dans le Gier, oui, on parle de la montagne de feu, là, qui est sur la commune de Génilac actuellement, là, où il y a eu un incendie qui a duré 30 ans, d'où le nom qui a été donné à cette colline.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, ce qui a fait la bonne fortune de ce gisement du Gier, c'est la proximité de Lyon, c'est la demande, mais pas seulement la demande de Lyon, mais peut-être aussi la demande de Marseille pour un vaste parcours à la fois des ménages qui ont besoin de charbon pour se chauffer, mais à la fois aussi les industriels.
Oui, oui, ce n'était pas exclusivement Lyon, effectivement, puisqu'on allait de Rive-de-Gier à Givors, alors soit d'Audemulet avant 1780, mais à partir de 1780, il y a le canal du Givors qui a été construit par des Lyonnais, ce qui montre déjà l'importance de l'exportation du charbon de cette région. Et à partir du Givors, c'était rechargé sur des bateaux sur le Rhône et on allait sur Lyon, ou alors on descendait dans le Rhône jusqu'à Marseille, effectivement. Mais à cette époque, le charbon était très cher. Enfin, le coût du transport était très élevé. Et dès qu'on était à Lyon, on va parler du début du 19e siècle, et ben on triplait le prix. Et puis à Marseille, le prix était multiplié par au moins 5. Donc c'était un transport qui était très coûteux.
Alors, les capitalistes lyonnais ont investi à la fois dans les mines de charbon du Gier, ils ont aussi investi dans le canal, vous le disiez. Alors, ce canal, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses. La pire parce que ça a ébranlé complètement l'équilibre social, notamment de Rive-de-Gier. Comment ça s'est passé, tout ça ?
Alors le projet du canal, il remonte assez loin. Hein. Dès 1745, c'est un ancien horloger lyonnais qui s'appelle Zacharie, qui était aussi un marchand en fer en gros, qui faisait souvent les trajets entre Lyon et Saint-Étienne pour approvisionner Saint-Étienne en fer, et qui avait donc constaté le trafic des mulets dans la vallée du Gier pour exporter le charbon. Et c'est lui qui a eu donc l'initiative de lancer le projet du canal. Alors son projet, c'était le canal du Rhône à la Loire. C'était un projet très ambitieux. Mais il n'avait pas des moyens. Il était riche, mais il n'avait pas des moyens conséquents. Le pouvoir lui a donné l'autorisation de creuser le canal seulement de Rive-de-Gier à Givors. Donc, et ce canal, il a eu pas mal de difficultés parce qu'il y a eu deux fois, on peut dire, des faillites, enfin des problèmes de financement. Puis il y a eu aussi des problèmes techniques. Les ouvrages n'étaient pas de très bonne qualité au début de la construction. Donc, c'est seulement en 1780 que le canal s'est ouvert à la navigation.
Alors, une époque commence, une époque s'achève. Celle qui s'achève, c'est celle des crocheteurs, ceux qui transportaient à dos de mulet le charbon. Et puis, l'histoire de ce canal, c'est aussi l'histoire d'une désillusion. Parce qu'à leur tour, ils vont être victimes de la concurrence.
Voilà, alors le canal ouvert en 1780 a très bien vécu jusqu'en 1830, 1832... qui est la date d'ouverture du chemin de fer Lyon à Saint-Étienne. Donc il a eu 2-3 années de difficultés au démarrage, mais après il a été rapidement très, très prospère. Il transportait juste avant 1830 près de 300 000 tonnes de marchandises, essentiellement de la houille, hein, du charbon. Mais quand il remontait, il descendait le charbon de Rive-de-Gier à Givors, et quand il remontait aussi des matériaux, du sable et des fers, pour l'industrie de la vallée du Gier, mais aussi de Saint-Étienne. Et quand il y a eu le chemin de fer, et ben ça a été un bouleversement, puisque la première année de fonctionnement du chemin de fer de la ligne Lyon-Saint-Étienne, en 1832, ben elle a perdu la moitié de son tonnage. Oui. Mais après, c'est une histoire qui est quand même intéressante. Ce canal a encore subsisté une cinquantaine d'années, hein, pour transporter le charbon. Après, il a été abandonné. Mais après, ça a servi un peu comme un outil, un moyen de pression pour les compagnies minières qui sont accaparées ce canal, alors qu'il était à des actionnaires avant qui n'étaient pas dans les mines, et qui s'en sont servis quand même pour pouvoir négocier sérieusement avec le chemin de fer, puisque c'était les deux moyens de transport. À l'époque, le transport n'était pas envisagé par la route, c'était trop coûteux, trop long, quoi. Et les routes étaient en très mauvais état. Donc l'histoire du canal continuera quand même, ce sera surtout une stratégie pour négocier des tarifs avec le chemin de fer.
Alors cette histoire du canal, cette histoire du chemin de fer, mais quand on vous entend, c'est quasiment une épopée. Et alors, ce que vous avez parfaitement réussi, c'est à inclure dans votre ouvrage des illustrations de l'époque qui nous montrent comment les contemporains ont représenté à la fois le canal, à la fois le chemin de fer. Quelle chance vous avez eue ?
Oui, on a la chance de trouver des dessins, des gravures, notamment au musée Gagnani à Lyon, des très beaux dessins faits par Hubert Saint-Didier là, sur les mines, sur la vallée du Gier. On a aussi des belles gravures du début du chemin de fer qui sont assez connues pour les spécialistes. On a donc des documents, et puis on a aussi des plans merveilleux de Bonnier en 1812 hein, qui sont d'abord d'une très belle présentation et qui montrent l'état des choses. Donc on a plein de documents que l'on peut utiliser. Et puis il y a aussi quelques autres artistes que je n'ai pas cités qui ont fait des peintures hein, sur ce thème-là.
Ce qui m'impressionne, c'est ce fameux papier peint qu'on a au musée Gadagne, que vous avez eu l'autorisation de faire photographier. Parce qu'il faut se dire qu'il y a un monde bourgeois qui avait le plaisir d'afficher sur ses murs, à travers le papier peint, ce déferlement de la technique moderne.
Tout à fait, ce papier peint qui représente à la fois le charbon à travers des puits de l'époque, qui représente aussi le chemin de fer, qui transporte aussi le charbon, et puis qui donne aussi en fond de paysage le paysage de la vallée du Gier, dans la zone autour de Rive de Gier. Donc c'est quand même, oui, c'est très intéressant, ça montre... c'est pas souvent qu'on trouve des papiers peints sur un thème qui rappelle l'industrie et cette histoire-là.
Voilà, alors le Gier a été l'élément de ce développement de l'industrie dans la vallée, là, à cause du charbon, à cause du canal et du chemin de fer. Mais aujourd'hui, le Gier continue à inspirer les poètes. Alors nous allons écouter une chanson. C'est une chanson tirée du livre « Là où coule le Gier », écrit par René Félix, et c'est une chanson créée par Jean-Louis Stein. Alors, vous ferez attention, c'est une chanson qui évoque l'histoire ouvrière de la vallée à travers l'histoire du grand-père de celui qui a composé la chanson. Et il parle du monde ouvrier en 1936, il parle des 200 familles, il parle de ce peuple qui est traité comme dans un jeu de quilles. Écoutons bien.
Cette vallée que j'aime tant, de Rive de Gier à Saint-Étienne, a des couleurs d'or et d'argent. Quand sur ses flancs le soleil traîne, au loin résonne le pilon qui appelle les métallos, qu'ils sont rudes ses compagnons, mineurs, paysans, cheminots. C'est là qu'il est né mon grand-père, entre l'acier et le charbon. Qu'il était beau, qu'il était fier, quand il était petit garçon. C'est là qu'avec Jeanne, sa mère, tous deux s'en allaient promener. Elle lui ramassait quelques pierres qu'il jetait là, où coule le Gier. ce fut dur dans ce vieux temps pour la vie de ces travailleurs qui, pour nourrir femmes et enfants, travaillaient des heures et des heures. Il y avait les 200 familles régnant comme règnent les rois. Le peuple était un jeu de quilles, les poings serrés, il se dressa. C'est là qu'il lutta mon grand-père. C'était en 1936. Pour faire reculer la misère, bien sûr, il était communiste. C'est là que la lutte ouvrière arracha les congés payés. Qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient fiers, en chantant là où coule le Gier. Cette vallée que j'aime tant, de Rive de Gier à Saint-Étienne, a des couleurs d'or et d'argent quand sur ses flancs le soleil traîne. Sortant des fourrés et des bois, il s'avança le loup allemand, imposant sa force et sa loi, nombreux deviendront résistants. C'est là qu'il est mort mon grand-père, sous les balles de ces salauds qui voulaient conquérir la terre pour y planter tous leurs drapeaux. C'est là qu'il est tombé par terre, il avait les deux mains liées, sa tête heurtait une pierre qui roula là, là où coule le Gier.
Nous sommes en compagnie de Roland Fournel, qui a composé un ouvrage sur les compagnies minières et sur les mineurs du Gier. J'insiste sur les dates que vous avez choisies, 1750-1950, parce que ces dates nous permettent de rentrer complètement dans l'histoire du capitalisme minier, avec l'apparition de grandes familles qui se sont constituées autour de Rive de Gier et qui se sont... réparti un petit peu le gisement, mais qui ont fait fortune.
Oui, avant 1800, on avait affaire à des propriétaires fonciers qui pouvaient être encore relativement modestes, parce que les puits étaient peu profonds, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et s'ils avaient un terrain qui avait la chance d'être sur de la houille, et ben, ils n'hésitaient pas à exploiter le charbon. Mais... à partir de quand la couche de surface a été exploitée, on s'est aperçu que ces couches descendaient, avaient une pente en direction de la vallée, du fond de la vallée. Et quand il a fallu creuser au fond de vallée, la grande couche que j'évoquais tout à l'heure, qui faisait 8 mètres, elle était bien plus profonde, près de 200 mètres de profondeur. Et à ce moment-là, il y a eu une sélection. C'est-à-dire que pour creuser un puits, il fallait... un an, mais plus souvent 2 ans, voire parfois plus, ça dépendait du terrain. Et à ce moment-là, il n'y avait que les riches propriétaires fonciers qui pouvaient, à partir de 1800, mobiliser des capitaux, faire des emprunts pour pouvoir, pendant 2 ans, creuser des puits sans revenus, quoi. Donc, alors, s'ils avaient la chance de trouver du charbon, eh ben, ils se récupéraient rapidement. S'ils n'avaient pas la chance de trouver du charbon, comme ça arrivait parfois, par exemple, vers Saint-Chamond, c'était plus difficile, quoi.
Et on voit le gisement partagé en multiples concessions.
Alors, un des grands problèmes, oui, du Gier, particulièrement, ça aussi, c'est que les concessions qui ont été délibérées au début du 19e siècle étaient de très petites superficies. Elles étaient en plus souvent divisées, l'exploitation était divisée illégalement parce que des propriétaires se regroupaient entre eux pour solliciter la concession, mais quand ils l'avaient obtenue, eh bien, chacun reprenait ses billes et pouvait exploiter indépendamment le charbon. Donc il y avait de nombreux puits et donc de nombreux conflits parce que les puits souvent avaient des problèmes d'eau et l'eau pouvait se communiquer d'un puits à un autre à travers les failles du terrain et c'était l'objet de nombreux conflits. Donc c'était une exploitation assez anarchique, on peut dire, hein, dans tout le début du 19e siècle, bien sûr au 18e siècle aussi, et qui générait des conflits et surtout des problèmes d'exploitation, puisque dès 1754, les mines du Gier étaient inondées. On les retrouve inondées aussi à diverses périodes, mais particulièrement avec une période qu'on appelle la Grande Inondation à partir de 1830. Avec les ingénieurs des mines qui étaient déjà là essayaient de régler ces conflits en essayant de promouvoir des accords entre les propriétaires, les exploitants et les concessionnaires, mais ils n'y sont jamais arrivés parce que c'était trop complexe, il y avait trop de personnes qui étaient impliquées et qui refusaient de financer les équipements nécessaires, c'est-à-dire des machines à vapeur, pour pouvoir enlever l'eau des mines.
Voilà, vous avez bien campé le contexte, c'est-à-dire que les mines s'approfondissent, on remonte des charges de plus en plus nombreuses, on a recours à une main-d'œuvre plus nombreuse, on a besoin de pomper l'eau, c'est-à-dire que dans cette période où les moyens techniques commencent à se multiplier, il faut aussi des capitaux et on voit cette vallée s'inscrire dans l'âge industriel avec notamment le recours à la machine à vapeur et la coquefaction. Ce sont deux éléments tout à fait fondamentaux.
Oui, on entre véritablement... Enfin, les Lyonnais, donc, comme je l'indiquais, se sont intéressés au charbon du Gier, mais au début, c'était par le transport et avec des investissements relativement faible dans les mines, mais à partir des années 1837-1838, il y a eu un mouvement important d'introduction des capitaux de Lyonnais qui ont acheté des actions dans les compagnies minières du Gier et qui, en quelques années, se sont pratiquement accaparés toute l'exploitation du charbon. Alors, on trouve ainsi un document très intéressant qui montre comment s'est fait ce mouvement de concentration aux archives départementales de la Loire, c'est-à-dire c'est les lettres d'un notaire lyonnais qui s'appelle Rambaud, qui agissait pour le compte de riches lyonnais, hein, souvent des marchands en gros de soie ou bien un peu ce qui était le début de la banque, quoi, hein, qui avait de gros capitaux à sa disposition, et qui correspondait avec un notaire qui était installé à Rive du Gier, qui s'appelait Uther, une famille très connue dans la verrerie, mais cet Uther, plus tard, est devenu aussi le directeur de la compagnie de Mont-Arbert et la Béraudière. Il est resté dans les mines. Et ce Uther le renseignait très précisément sur les investissements, les opportunités, disons, d'investissement qu'il pouvait y avoir à une époque où l'industrie, la métallurgie démarrait, à une époque où la demande aussi des ménages augmentait, à une époque où le prix du charbon augmentait beaucoup. Et puis, il y avait, en somme, pour les Lyonnais, c'était une opportunité, ces mines noyées. Enfin, puisque une mine noyée, ben, elle perdait la moitié de sa valeur. Donc, ils n'ont pas hésité à un moment. Et puis, il y avait, j'oubliais, le développement, le chemin de fer, hein, qui existait depuis quelques années. Et donc, à partir de ce moment-là, les compagnies minières, fin 1843, on peut dire que tout le Gier était regroupé, toutes les compagnies minières étaient regroupées, pas toutes, mais disons, ils regroupaient 80% de la production du Gier. Et à partir de ce moment-là, l'ambition, eh ben, elle a dépassé celle du Gier. Elle était, alors ce mouvement de constance, elle était de s'étendre sur le bassin minier stéphanois. Donc, sur lequel il y avait déjà eu un certain mouvement de concentration, mais réduit, hein, limité, disons. Et à partir de 1844-1845, la compagnie qui s'appelait Compagnie Générale des Mines de Rive de Gier a absorbé les compagnies de la Loire, souvent par des échanges d'actions, chacun essayant bien sûr de vendre au meilleur prix, c'est-à-dire que les compagnies de Saint-Étienne étaient d'accord pour former un grand groupement, mais en cherchant le maximum de valeur de leur patrimoine. Et on est arrivé ainsi à la très grande concentration avec la formation de la Compagnie des Mines de la Loire, qui a commencé à rentrer en activité début 1846, au tout début, au 1er janvier, et qui a fonctionné pendant une dizaine d'années. C'était une compagnie très importante.
Voilà, alors tout ce que vous nous expliquez est absolument passionnant, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas que l'or qui est un objet de spéculation dans notre bas-monde, mais il y a aussi le charbon. Et les bourgeois lyonnais ont fait de gros profits, ils se sont installés dans la vallée souvent et ont développé l'industrie à la fois métallurgique et l'industrie du verre. Et c'est tout un ensemble qui s'est organisé autour de la maîtrise à la fois de la vie économique, mais aussi de la vie politique et sociale. Donc, quelque chose d'extrêmement solide qui s'est concrétisé dans l'histoire de la vallée et dans les paysages, avec les usines et avec les châteaux, par exemple.
Alors, il y a si on regarde les actionnaires de cette grande compagnie des mines de la Loire, on constate que environ, c'est M. Guillaume, qui a un universitaire qui a étudié ça de près, qui a environ 50% des capitaux qui étaient à des Lyonnais, 30% à des Parisiens, et puis 10% à peu près à des banquiers genevois, et puis 10% à d'autres, à des notables de la Loire.
Considérant que la grande compagnie des mines de la Loire allait depuis la Bérodière jusqu'à Rive-de-Gier. Hein.
Tout
c'est,
à fait.
C'est absolument incroyable.
Ouais. Mais disons que s'il y avait relativement peu de notables, de bourgeois stéphanois qui étaient actionnaires de ces compagnies, il ne faut pas oublier qu'à cette époque aussi, les propriétaires fonciers qui avaient des terrains sur lesquels on exploitait le charbon profitaient aussi beaucoup de cette industrie minière, hein, puisqu'ils retouchaient une redevance alors qu'ils n'investissaient rien et touchaient des montants importants de redevance. Ils touchaient, je montre qu'ils touchaient pratiquement plus que les impôts que versaient ces compagnies à l'État, quoi.
Alors, il y a un terme qui est tout à fait expressif, on parlait du monopole. À vos yeux, comment ça se traduisait, cette idée de monopole ?
Alors, le monopole, il se traduit par le fait que c'est vrai qu'on constate que cette compagnie, elle cherche toujours à adapter sa production de telle façon à maintenir des prix élevés. Ça, c'est sans doute vrai et souvent, les ingénieurs des mines et le pouvoir, disons, en général, leur reprochaient un peu de réduire la production, enfin de ne pas utiliser toutes leurs capacités de production pour l'intérêt national, quoi. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ce groupe de compagnies de l'or a été fractionné en 1854. Ce n'est pas la seule raison, hein, il y avait aussi des problèmes de... il y avait surtout l'opposition des milieux politiques et économique interne à la Loire, hein, surtout à Saint-Étienne, les conseils municipaux, la chambre de commerce. Il y avait aussi des raisons de mauvaise entente entre le groupe des Lyonnais et le groupe des Parisiens, à un moment où les communications n'étaient pas faciles et des problèmes délicats étaient à régler. Et souvent, il y avait une mésentente, hein, sur les solutions à apporter.
Donc la sanction est arrivée de la part de Paris, hein, et elle a frappé directement la compagnie des mines de la Loire. Elle a obligé à se partager, à se fragmenter.
Alors, elle s'est fragmentée en 4 compagnies, 3 sur le bassin minier de Saint-Étienne et une sur la dernière sur le Gier. Ce que je montre quand même, peut-être ce qui a été peu dit, c'est qu'on peut penser que ce fractionnement qui était demandé par tout le monde et aussi par les ouvriers de la CML, ben, il n'a pas été favorable spécialement aux ouvriers, hein, parce qu'ils ont, à ce moment-là, ils ont été divisés, alors que les actionnaires des compagnies, ben, ont été gagnants. Hein, puisque si on regarde les dividendes qui ont été versés par action, pour chaque action, on constate qu'après le fractionnement, eh ben, comme c'était les mêmes actionnaires dans les 4 compagnies, ils touchaient encore plus de dividendes qu'à l'époque de la compagnie unique du monopole de la CML. Et Donc, ce qui a été négatif, c'était la réduction de la production dans la Loire à cette période, parce qu'il a fallu au moins un peu plus de 5 ans pour retrouver les niveaux de production de 1854, enfin, la période du fractionnement, puisque chaque compagnie a pris du temps pour réfléchir à ses investissements, à ses recherches, à son nouveau mode d'organisation. Et c'est donc l'intérêt général qui a été un petit peu mis en cause à travers le fractionnement.
Voilà. Et c'est l'époque aussi où on exige de la part des mineurs d'augmenter les productions tant faire se peut. Une manière de trouver la transition avec le morceau sonore que vous aviez choisi, Roland, 16 tonnes de Jean Bertola, qui nous parle de ce dur travail des mineurs et cette tentation de la révolte et ce rêve d'un meilleur monde, notamment du dimanche. Mais vraiment, ce morceau des 16 tonnes-là est absolument magnifique sur ces rythmes de jazz.
Si l'homme est de la boue pour des tas de gens, il est pour moi fait de chair et de sang, de muscles de fer, d'un cœur trop bon, avec deux épaules pour charger le charbon. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers quatre planches de bois. La pelle chaque jour qui prend plus de poids, mais qui ferait vivre la mine sans toi? Quand ta mère a déjà cinq gosses à nourrir, un de plus n'est pas pour lui faire plaisir. Alors toi tu bosses comme un lion, mais le chef a beau dire que t'es un champion. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers quatre planches de bois. La crasse qui te ronge et durcit tes doigts, et le droit de te taire quand tu touches ton moi. À force de te battre comme un damné, l'envie te prend d'envoyer te promener, mais y a tous les rêves de tes copains. Alors tu la boucles mais tu serres les poings. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers quatre planches de bois. Et pour te consoler de voir ce que tu vois, l'idée que ton père l'a vue avant toi. Mais si toute la semaine tu crèves en bas, dimanche enfin tout le ciel est à toi. Et dans tes draps blancs, dès ton réveil, les yeux de ta femme sont comme du soleil. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour quand même où tu peux croire à la joie, l'espoir d'une autre vie pour tes deux petits gars et toute la mine qui pense comme toi. 16 tonnes, 16 tonnes.
Émission du Grémos, groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, avec aujourd'hui un coup de zoom sur les mines et un coup de zoom sur les mines du Gier avec Roland Fournel. Alors Roland, les mineurs, ils sont là dans le Gier. Il en a fallu de très nombreux pour travailler dans ces mines. D'où venaient-ils?
Alors, les mineurs, ils venaient du milieu local. Et quand on recrutait, l'essentiel des effectifs venait de la Haute-Loire. Ben voilà, c'est une démonstration qui a été faite, enfin une étude qui a été faite par M. Lardon, un universitaire qui a fait une thèse très intéressante sur Rive-de-Gier. Donc, ils étaient nombreux dans le Gier, mais beaucoup plus nombreux sur Saint-Étienne, bien sûr. Alors ça dépend des périodes, mais disons, on vient d'évoquer la période autour de 1850. Il y avait environ 6000 mineurs, la majorité 2500 à peu près d'Angers et un peu plus à Saint-Étienne. Quoi. Mais après, il y a eu beaucoup plus de mineurs sur Saint-Étienne.
Et alors, face à des compagnies dont le profit était la principale préoccupation, le travail du mineur est un travail particulièrement difficile dans ces mines du Gier.
Bien sûr, les conditions de travail sont très difficiles et les compagnies, on peut commencer par ça, cherchaient bien sûr à gagner en rentabilité en augmentant les rendements et parfois cherchaient à réduire les salaires. Et c'est cette période de la concentration minière, disons de 1840 à 1860, a été l'objet de nombreux conflits, des très grandes grèves, 1840, 1844, 46. Après, il y a eu les événements de la Révolution 1848, et puis après, il y a eu encore 52. Enfin, on trouve des conflits très importants dans ces périodes où les mineurs cherchaient à défendre leurs conditions de travail, les problèmes de salaire, bien sûr, les problèmes des horaires dans la mine, les problèmes aussi, surtout, aussi souvent, des caisses de secours, c'est-à-dire des indemnités qui pouvaient toucher en cas d'accident et aussi en cas d'accident mortel hein, pour leur famille. Puisqu'à cette époque, il y avait des subsides très faibles et il n'y avait pas du tout de retraite déjà. Donc voilà, les compagnies, les conditions de travail étaient très difficiles parce que les mineurs, ils travaillaient, ils étaient souvent présents 13-14 heures dans la mine. Ils travaillaient souvent 10 heures, mais ils étaient payés que quand ils avaient atteint leur chantier. Et souvent, il fallait plus d'une heure le matin pour rejoindre le chantier, une heure pour revenir, le casse-croûte de midi qui n'était pas payé. Donc, s'ils travaillaient 10 heures, c'était déjà un gros travail, puisque physiquement, c'était très fatigant. Et ben, ils ne sortaient de la mine qu'après 14 heures de présence.
Voilà, on descendait la nuit et on remontait la nuit.
Voilà.
Alors vous parlez des salaires d'une façon très très intéressante en démontrant que avec le salaire d'un mineur, il n'était pas possible de faire vivre une famille.
Oui, c'était très difficile parce que quand on regarde à l'époque, on trouve dans la littérature à cette époque beaucoup des salaires à la journée. Mais dès qu'il y avait donc quand les mineurs travaillaient 6 jours dans la semaine. Et quand on fait le calcul, ce qu'il fallait à une famille classique, les parents et 2 enfants pour pouvoir se nourrir, on trouve que les salaires des mineurs les mieux payés, c'est-à-dire les piqueurs ou ceux qui creusent les puits, il ne suffisait pas à équilibrer le coût de la vie. Quoi. Donc alors, il y avait en plus des tas de catégories, ceux qui avaient un travail moins qualifié, qui étaient bien moins payés, presque la moitié. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve que dans les familles, on est souvent obligé de faire travailler les enfants dès 12 ans, parce que le salaire ne suffit pas. La femme ne travaille pas, hein, les femmes ne travaillent pas en tout cas dans les mines. Et il faut le salaire du père, mais il faut aussi qu'il y ait 1 ou 2 enfants pour pouvoir gérer le ménage à peu près correctement.
Voilà, beaucoup d'accidents, une durée de vie qui est bien inférieure quand on est mineur que quand on est verrier. Avec sans doute des statistiques que vous donnez fort intéressantes, là, relativement peu d'accidents dus au grisou.
Alors sur les accidents, on trouve pas mal d'éléments parce que les ingénieurs des mines avaient dans leur fonction le devoir de noter les accidents, de recenser les accidents. Et on peut dire que dans la Loire, au 19e siècle, donc sur 100 ans, de 1800 à 1900, il y a eu, j'ai comptabilisé, environ 4300 mineurs morts d'accidents du travail. C'est sur l'ensemble de la Loire, hein, dont environ 1300 dans le Gier. Donc c'était énorme. Alors l'accident le plus courant, c'était un effondrement du toit de la mine. On était enseveli sur la terre, ce qui devait être terrible. Ou bien des chutes, tout simplement des chutes de pierre, des chutes qui vous fracassaient le crâne. C'était l'accident qu'on trouvait presque dans la moitié des accidents mortels, quoi, le type d'accident. Ensuite, on trouvait effectivement les coups de grisou, hein, qui, dans les mines qui étaient sujettes aux grisous, donc avec la particularité de faire bien sûr de nombreuses victimes à ce moment-là, puisque c'était des accidents qui pouvaient provoquer plusieurs dizaines de morts. Et puis on trouvait de nombreux aussi accidents de machines, et puis des accidents tout simplement de chute dans les puits de mine. Alors pour les accidents de grisous, ce qui est particulier, c'est qu'au XIXe siècle, quand même, la Loire est de loin devant le bassin minier du nord de Valenciennes. Il y a beaucoup plus d'accidents de grisous dans la Loire que dans le nord. Et pourtant, dès 1824, on avait équipé les mineurs dans les mines sujettes aux grisous de lampes de sécurité qui venaient à l'époque d'Angleterre, la lampe Davy. Mais ces lampes étaient souvent mal entretenues par les compagnies ou les ouvriers eux-mêmes ne faisaient pas toujours attention à leur sécurité.
Alors en cas de conflit avec l'employeur, dans certains autres bassins ou dans certains lieux du bassin de Saint-Étienne, on voit la capacité de ces mineurs à claquer la porte assez facilement et à se réorienter vers les autres corporations. Est-ce que c'était la même chose à Rive-de-Gier?
Oui, certainement. Alors, il y avait quand même des livrets de mineurs, donc ils étaient quand même suivis. Donc, quand ils quittaient une entreprise, ils devaient présenter leur livret qui montrait l'historique de leur emploi, des entreprises dans lesquelles ils avaient travaillé. Donc, ils étaient un peu pistés, disons. Ils étaient quand même nettement surveillés. Et puis, c'était une époque où il y avait un fort développement, comme on le disait tout à l'heure, de la métallurgie, de la verrerie. Donc, il y avait certainement des possibilités de recyclage ou bien même de travailler dans des compagnies minières un petit peu plus éloignées où leur nom ne posait pas de problème. Donc, les mineurs changeaient assez souvent. Moi, j'ai vu seulement un livret de mineurs. Eh ben, en 30 ans, il y avait au moins 6 ou 7 compagnies dans lesquelles avait travaillé ce mineur-là.
Alors, le déclin commence à s'amorcer vers 1855. Votre étude vous conduit jusqu'en 1950. Est-ce que vous voyez se développer un éveil au syndicalisme dans cette période-là?
Alors, jusqu'à les syndicats étaient interdits avant 1870-80, et avant ça n'empêchait pas qu'il y ait des grèves. Alors on appelait ces grèves des coalitions, c'était aussi interdit par la loi, mais les ouvriers qui se coalisaient donc étaient parfois avec des manifestations d'abord parfois très pacifiques, et il était difficile pour les pouvoirs de trouver les responsables, puisqu'il y avait officiellement pas d'organisation. Et quand ils s'organisaient, ils étaient très, très surveillés, mais ils arrivaient quand même à créer un rapport de force, parce que des fois, ils arrivaient à être encouragés par la population locale. Ils pouvaient avoir un large soutien. Alors quand ça devenait violent, c'était plus difficile, parce qu'à ce moment-là, la bourgeoisie locale qui pouvait soutenir les mineurs contre le monopole, à ce moment-là, ils se retiraient, ils prenaient peur. Mais donc, ce mouvement de naissance vers le syndicalisme s'est fait petit à petit, certainement pour arriver à des revendications communes. C'était leur grand problème, notamment, par exemple, celui d'avoir une caisse de secours générale, alors qu'avant, les caisses de secours que j'évoquais, elles étaient particulières à chaque compagnie minière, alors elles étaient très différentes. D'abord, il y a des compagnies qui n'en avaient pas, des compagnies qui avaient des caisses plus ou moins importantes. Donc c'était important, ils voulaient d'une part un regroupement des caisses de secours et d'autre part pouvoir gérer ces caisses de secours, alors que c'était sur leur salaire qu'il y avait une retenue importante qui alimentait ces caisses. Alors que c'était la direction des mines, les patrons qui gardaient les décisions des aides à apporter en cas d'accident ou de problème de santé.
Alors nous reparlerons tout à l'heure de Jean Jaurès, mais dans ce bastion ouvrier qu'était la vallée du Gier, là, Jean Jaurès est venu.
Alors Jean Jaurès est venu à la fin du XIXe siècle. Je sais qu'il est venu notamment dans la métallurgie quand il y a eu une grève chez Marel en 1893. Et puis, quelques années après, il est venu aussi quand il y a eu une grande grève dans les verreries aussi, ouais. Puisqu'à Rive-de-Gier, il y avait de nombreuses verreries. Donc, il est venu au moins deux fois à Rive-de-Gier, mais il est venu aussi, bien sûr, à Saint-Étienne.
Et il est venu à Saint-Chamond, nous en parlerons tout à l'heure. Alors, remarquable parcours que nous avons fait ensemble, Roland. Et aujourd'hui, 2018, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encore nous parler de ces mines du Gier?
Alors, en dehors de l'histoire des hommes, il y a encore quelques vestiges. Alors, il y a un site intéressant dans le Gier, c'est le site du Gourmarin. C'est un terrain qui est situé, une zone qui est située en face de la gare ferroviaire de
Rive-de-Gier.
Derrière
la gare. Hein.
Derrière la gare, de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du Gier. On trouve sur ce site le bâtiment de la machine Varroquet.
Alors là, génial, parce qu'on revient à la Compagnie des Mines de la Loire dont on parlait tout à l'heure. Et ce monument, je l'appelle monument, est tout à fait exceptionnel dans l'archéologie industrielle française.
Voilà, c'est un équipement qui a été construit en 1851 par la Compagnie des Mines de la Loire, qui était un espèce d'ascenseur, alors pas un ascenseur comme on le fait aujourd'hui, hein, c'était par un mouvement de translation et de plateforme qui était installée tous les 6 mètres, on arrivait à faire descendre des mineurs à 200 mètres de profondeur dans de bonnes conditions de sécurité. C'était une installation donc, qui portait le nom de l'ingénieur belge qui était l'inventeur de ce procédé.
Et tout cela marchait avec une machine à vapeur.
Avec les machines à vapeur qui étaient très nombreuses à cette époque, puisqu'il faut attendre après 1880 pour trouver pour utiliser l'électricité.
Et puis tout à côté, un remarquable monument aussi en bois, qui est le chevalement en bois du Puy Combelibert. Alors j'insiste bien sur l'importance de ce chevalement parce que dans le bassin stéphanois, nous avons tout à la fois un chevalement en bois, des chevalements métalliques au Puy du Marais, au Chambon-Feugerolles et le Puy Couriot à Saint-Étienne, et un chevalement en béton armé qui est le puits des Combes à la Ricamarie. Alors, ce chevalement en bois, génial.
Ah oui, il est très intéressant. Alors, c'est un chevalement peut-être moins spectaculaire que les chevalements qui ont été construits après, parce qu'il est de plus petite dimension. Hein, il doit faire 7 ou 8 mètres de hauteur. Mais, comme vous le disiez, c'est le seul dans la Loire qui existe encore de ce modèle, c'est-à-dire qui est représentatif de la mine au milieu du 19e siècle. Il n'est pas. Alors, il est aussi sur le site en face de la gare, là, sur le terrain en face de la gare, mais il a été transféré, il n'était pas installé là à l'origine, pour des raisons qu'on ne va pas expliquer
ici. De propriété.
De propriété, donc il a été transféré, mais le chevalement a été conservé et rénové, ce qui était très, très important. Et donc actuellement, il est visible, on peut s'arrêter facilement sur ce terrain pour voir ces deux équipements.
Et de ce fameux canal dont on a tant parlé, est-ce qu'il reste encore des tronçons visibles?
Alors oui, il reste pas mal de choses à voir pour le canal. Alors, il y a d'abord un petit peu le siège de la Compagnie du Canal, qui est l'actuelle mairie de Rive-de-Gier, ce bâtiment quand même qui se remarque puisqu'il est important et implanté de façon transversale par rapport à l'axe de la vallée. Et quand on va à Rive-de-Gier, on voit ça obligatoirement. Il y a aussi surtout sur le canal proprement dit, donc le site du Rocher Percé, qui est un site par lequel on y accède par l'ancienne route de Givors.
À Tartara. Hein.
À Tartara, environ 3-4 km de Rive-de-Gier en direction de Givors. Et là, Saint-Étienne Métropole a rénové de façon intéressante un site où il y a deux écluses. Et donc un morceau de canal, on voit donc comment était fait cet ouvrage, ses dimensions, ses caractéristiques. Et puis on l'appelle Rocher Percé parce que il y a le canal, il passait en partie souterraine sur environ 180 mètres de long dans la montagne, donc ce qui était quand même un ouvrage important.
Et sans oublier quelques éléments du premier chemin de fer qui passait dans la vallée.
Et pour le chemin de fer, Bah, la ligne actuelle est très proche de ce qu'elle était en 1830-1832. Et à Rives-de-Gier, on a la chance d'avoir le plus ancien tunnel ferroviaire de l'histoire du chemin de fer en France, hein, puisque ce tunnel a été ouvert donc à la circulation en 1830. Et c'est le tunnel qui est dans... Alors, il y avait un premier tunnel qui avait une seule voie, hein, qui traversait Rives-de-Gier. Alors, il a été abandonné une vingtaine d'années après parce que la courbe n'était pas... Le rayon de courbure de cet ouvrage n'était pas satisfaisant. Et puis, il fallait bien sûr, comme le trafic augmentait beaucoup, qu'il y ait au moins deux voies, hein, donc, pour que les trains puissent se croiser.
Merci Roland. En avant pour l'agenda. Agenda culturel pour le mois de février. Ah, c'est vide. C'est vide parce que nous sommes en vacances. Alors, autant tourner les pages et on va au mois de mars. Et là, alors, je peux vous dire qu'au mois de mars, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Malgré tout, il faut vous signaler une exposition intéressante à la médiathèque Louise Labbé à Saint-Chamond, qui va durer du 11 février au 1er mars, une exposition sur Jean Jaurès. Or, il faut savoir que Jean Jaurès est venu à Saint-Chamond le 15 février 1904. Incroyable! C'est un anniversaire. Alors maintenant, jeudi 8 mars, Ville d'Arrêt d'Histoire de Saint-Étienne propose un parcours de découverte à travers la ville de Saint-Étienne. Et ce jour-là, à 10h30, visite du site de la manufacture d'armes à ne pas rater. Et à 14h30, à la Cinémathèque, projection d'archives de la Cinémathèque par Gérard Vial. Le même jour, jeudi 8 mars, au Musée d'art et d'industrie, à 18h, conférence sur « Le travail des femmes dans la rubannerie au XIXe siècle » par Frédéric Zarche, médiateur culturel au Musée d'art et d'industrie. Mardi 13 mars, première rencontre des mémoires sociales et citoyennes à l'invitation du syndicat CGT des retraités des organismes sociaux de la Loire. Alors ça va se passer, salle Sacco-Vanzetti à la Bourse du Travail, à 14h30, avec une présentation de la période principalement 1938-1968. Projection de 4 films de la Cinémathèque par Gérard Vial, l'un sur les grèves de 47, l'autre sur les grèves de 48. Ensuite, un film sur Saint-Étienne, ciné-mémoire d'une ville ouvrière, un long film de 50 minutes. Et enfin, un film sur le 13 mai 1968 dans la Loire. Tout cela étant suivi par des débats, des témoignages sur mai 1968 à Saint-Étienne et dans les organismes sociaux. Vendredi 23 mars, colloque du CEDMO 42. Le thème est le mouvement de la paix dans la Loire 1948-1998. Et puis, on termine le mois de mars, le mercredi 28 mars, à l'Institut du Travail sur le site Tréfilerie de la fac, à l'amphi E01, pour une conférence qui n'a pas pu avoir lieu en son temps à cause des conditions météo. De 18h à 20h, on reçoit Jean-Paul Bentière pour une conférence sur Edmond Maire, le recentrage de la CFDT et l'UDCFDT de la Loire, en remplacement de la conférence du 6 février. Et puis, sans doute d'autres conférences, mais dans les mois qui suivront. Et alors, Roland, ben vous aurez votre part là-dedans, parce que toujours sur les sujets que l'on a abordés avec vous aujourd'hui, il y aura d'autres conférences. Lesquelles?
Ah, bien sûr, j'essaye d'intervenir d'une part dans la vallée du Gier, mais aussi sur des associations qui veulent bien nous accueillir à Saint-Étienne. Et je remercie Radio Dio, puisque c'est le cas, donc pour évoquer ces sujets. Et notamment, je pourrai intervenir dans le cadre de l'Université pour tous au mois d'octobre dans la moyenne vallée du Gier. Et puis il y aura aussi en fin d'année un colloque sur des compagnies, des groupes archéologiques de la Loire et des environs là, sur lesquels je pourrais faire une intervention.
Et bien voilà, vous savez tout. Merci Roland, c'était passionnant.
Merci.
Loïc, c'est incroyable que autant de manifestations puissent avoir lieu.
Il y en a tout le temps à Saint-Étienne.
Tout le temps.
Actif depuis l'époque des mines, mais toujours sur le coup.
Oh là 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 là, quel bonheur d'habiter Saint-Étienne. À bientôt.